dans le magnifique hôtel Beau Rivage sur les quais au bord de la rade de Genève avec Xavier Beauvois. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Dont le film, le dernier film, septième long métrage, Les Gardiennes, va faire l'ouverture du festival GIF, comme certains le prononcent, ce soir. Donc un film qui nous plonge dans l'univers de la guerre 14-18, inspiré d'un livre éponyme. Et donc là, vous nous plongez dans l'univers de la guerre, mais côté des personnes qui sont restées hors du front. Ça, c'est un bel hommage, parce que d'habitude, ces personnes sont occultées, que ce soit de la littérature ou que ce soit du cinéma. Xavier Beauvois est toujours avec moi, mais voilà, il ferme la fenêtre de sa splendide chambre.
C'est une suite, pardon.
On voit que je suis prolétaire, que je n'ai pas l'habitude.
Ah non, mais moi, j'ai jamais eu une suite pareille. En 30 ans de carrière, c'est absolument incroyable d'accueillir ici. C'est absolument sublime.
Et on précise pour les auditeurs que vous avez la vue céleste au-dessus de votre lit.
Oui, c'est un truc spécial. C'est donc il y a des espèces de vitres qu'on peut occulter pour dormir, mais on peut laisser ouvert pour voir les étoiles. C'est génial.
Dormir la belle étoile, mais dans un lit quasiment royal.
Royal, même pas quasiment, non.
Royal. Alors pour revenir à votre film Les Gardiennes, Xavier, vous avez eu envie, après la lecture de ce livre, de nous immerger, nous en tant que spectateurs, dans cet univers à la fois agricole, bucolique, mais aussi quand même malmené par la guerre.
Oui, c'était surtout aussi une envie de parler des femmes, uniquement des femmes. Et puis ça me va bien, parce que moi-même j'habite dans une ferme en Normandie, j'ai un âne, j'ai des poules, j'ai des pommes de terre, j'ai mon potager. Comme Chaplin disait que le plus grand luxe que l'homme puisse offrir, c'est le silence. Donc moi, je suis dans le silence. Et puis j'avais un grand-père aussi paysan. Et j'aime beaucoup les films de guerre. De toute façon, enfin, ça m'intéresse beaucoup, la guerre. Il suffit de voyager en France dans n'importe quel village et d'aller voir le monument aux morts. Le village, il y a 300 habitants. Il y a 50 morts. On se dit, mais comment c'est possible une telle boucherie ? Partout, c'est dément. 300 habitants, 40 morts, donc ça, c'est forcément passionnant de voir à quel point les hommes sont fous. Je crois que j'ai été un peu marqué aussi par Pete Cherbourg, parce que j'en ai parlé beaucoup avec Michel Legrand, il m'a dit on n'a pas fait exprès, parce qu'on voulait qu'il soit plus là, le mec, donc on l'a envoyé à la guerre, mais on n'a pas pensé...
Guerre d'Algérie, là, en l'occurrence.
Oui, c'est la guerre d'Algérie, pardon, et on n'a pas pensé à ça, mais je dis, mais en fait, ça y est dans le film, quoi. Et c'est un vrai film de guerre, on l'a pas fait exprès, mais c'est un film de guerre. Mmh. C'est intéressant de voir le type qui revient, t'as déjà l'angoisse dans les lettres, il y a un attentat à la grenade, et de voir revenu, il est aigri, il est alcoolique, il est plus pareil, quoi, et puis comment gérer d'être enceinte, tout ça. Mmh. Et ça avait travaillé dans ma tête aussi, parce qu'il y a très peu de films où on voit l'arrière. Toujours intéressant, l'arrière du décor. Quand on est cinéaste, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait des repérages, on a accès à tout. On voit tous les endroits où on n'a pas le droit d'aller normalement. Moi, j'ai joué Louis XVI à Versailles. On m'a fait visiter tous les endroits où les gens n'ont pas le droit d'aller. Avec la police, j'ai fait des autopsies, des trucs, des choses. C'est assez magique, l'envers du décor. C'est intéressant.
Et pour Les Gardiennes, l'envers du décor, vous avez eu accès à peut-être des archives, des sources qui ne sont pas normalement consultées ou...
Non, ça c'est consultable de beaucoup de gens. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films. De toute façon, les films, c'était des combats, c'est des reconstitutions, tout ça.
Des tranchées.
Ce qui est intéressant, c'est les lettres des soldats, que ce soit des lettres des soldats allemands ou français, parce que de toute façon, ils disaient la même chose. Et il faut savoir que le gouvernement français a engagé 400 000 personnes en plus pour traiter le courrier. Mais des millions de lettres par jour, et c'était gratuit. Donc les soldats, quand ils revenaient en permission, ne parlaient pas. Et tous les gens qui font la guerre, de toute façon, n'en parlent pas face à face, quoi. Mais dans l'enfer des tranchées, ils écrivaient des choses. Ils disaient ce qui se passait, quoi. Ils étaient désinhibés. On apprend beaucoup de choses dans les lettres, quoi.
D'ailleurs, il y a eu des petits recueils qui ont été après publiés sur sa lettre, qui n'ont même pas d'orthographe ou de sémantique, mais qui disent, même en phonétique...
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, contrairement à ce qu'on a maintenant, où on écrit n'importe quoi, on va nous inventer des écritures inclusives. n'importe quoi. On écrit des textos. C'est même pas de la phonétique, c'est n'importe quoi, les rappeurs, tout ça. Et non, à l'époque, c'était, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas le téléphone. Donc l'écriture, c'était un lien social. Et le certificat d'études, ça valait quelque chose. Maintenant, le bac, ça ne vaut plus rien. Et les gens écrivaient excessivement bien, avec un vocabulaire incroyable et une grammaire incroyable. Enfin, c'est incroyable comment les gens écrivaient, comment on a perdu ça maintenant. Bon, même si parfois ils écrivaient dans le langage de leur région, parce que des fois dans les tranchées, les gens ne se comprenaient pas. Hein. Le breton ne comprenait rien de ce que disait son collègue soldat du Nord, hein, ou le mec de la région de Bordeaux, s'il ne se comprenait pas. Quoi. Mais ils écrivaient quand même très très bien. Donc. Et il y avait très peu de lettres dans l'alphabet.
Et là, vous nous montrez l'envers du décor à travers des figures de femmes fortes qui tiennent en fait le navire. Nathalie Baye, Laura Smet et cette révélation du film Iris Bry. Vous les avez choisies déjà au niveau de l'écriture pour incarner vos protagonistes?
Nathalie et Laura, oui. Parce que je connais Nathalie depuis 1999 et donc je connais Laura depuis elle était adolescente, quoi. Et après elle est devenue actrice, donc c'était un vieux fantasme qu'on avait.
De les réunir?
Ouais. Il y a longtemps qu'on avait envie de ça, et puis pour ça, il faut tomber sur le bon sujet. Quoi. On n'avait pas trouvé avant, et c'est tombé pile poil au bon moment, je pense. Et après, Iris, c'est après l'écriture du scénario, au moment du casting, qu'on a trouvé. Ouais.
Qui est vraiment incroyable en incarnant Francine. Et vous la faites évoluer au cours du film, physiquement aussi. Vous lui avez demandé de beaucoup travailler, puisque pour elle, c'est un premier rôle.
Beaucoup travailler en préparation, oui, mais pendant le tournage, non, parce que elle savait faire instinctivement, elle était parfaite. Parfaite, c'est les gens, les techniciens ne voulaient pas me croire qu'elle avait jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma. Elle attrapait la lumière. Moi, je disais des fois à ma chef-op, Caroline Champetit, je disais, mais fait quelque chose, on voit qu'elle, elle dit, je n'y peux rien. Elle attrape, elle est démente. Et donc le travail, ça a été d'apprendre à labourer, à passer la herse, à conduire les chevaux, à maîtriser les bœufs, à faire marcher une moissonneuse-batteuse-lieuse ou un tracteur, le premier tracteur. Et c'était ça le travail un peu avant.
C'était un tournage très physique alors pour ces protagonistes.
Il y a des moments où Nathalie elle dit, mais tu vas me tuer ou quoi? Non, c'est pas évident. Puis ça peut faire un peu peur aussi, parce qu'à l'époque, les vaches, les tiers avaient des cornes. C'est dur d'en trouver maintenant. On a fait vraiment parce que maintenant elles sont modifiées génétiquement, okay, tout ça, elles ont plus de cornes.
Puis à l'époque, on les écornait d'ailleurs.
Ouais, mais maintenant même plus. Et les vaches à viande, elles ont encore des cornes, mais dans les champs, parce que bon, c'est pas très dangereux. Mais les vaches à lait, elles en ont plus. Quoi. Et c'est quand même, même si on sait que c'est des animaux assez doux, c'est quand même impressionnant. Hein, c'est quand ça remue. Les bœufs, c'est les bœufs, quoi. Faut maîtriser deux bœufs quand on est une jeune fille, c'est spécial.
Et par rapport à ce travail avec vos comédiens, vous avez travaillé comment? Vous étiez avec eux pour leur expliquer comment procéder, ou vous êtes plutôt directif? Comment vous fonctionnez?
Ça dépend de la scène, quoi. Moi, sur les animaux, j'ai appris en même temps qu'elle, avec des spécialistes. Et puis... de toute façon, il y a toujours quelqu'un sur mes films qui est spécialiste de la chose. Donc si je fais des travaux avec des moines, j'ai un vrai moine avec moi. Si je fais la police judiciaire, j'ai 3 ou 4 flics par jour avec moi. Là, j'avais un historien pendant la préparation sur plein de choses. Et puis, mon travail, c'était aussi de leur, quand on ne tourne pas dans l'ordre, d'essayer de leur dire, voilà, là, on est en telle année. Donc on est optimiste, ça se passe bien, on y croit. Là, par contre, en revanche, là, cette année-là, ça va pas du tout. Là, c'est la déprime. On s'enlise, on se demande si ça va finir un jour. Voilà, ceci, cela, c'était un peu de. Mais bon, mais à un moment donné, elles ont. C'est des actrices, ça roule, quoi. C'est pas.
C'est fluide.
Faut pas imaginer que le metteur en scène, par moment, a un travail monstrueux. Des fois, elles arrivent, elles ont tout compris, elles se mettent à table et puis elles font les choses et. C'est pas un combat permanent, ça peut être au contraire un plaisir chaque jour. Les femmes, c'est plus simple que les hommes, je m'en suis rendu compte sur ce film. Les femmes, elles s'abandonnent plus dans la confiance avec le metteur en scène, et les hommes ont tendance à se prendre plus la tête. beaucoup trop réfléchir avant les prises, quoi. Donc j'étais obligé de faire des blagues, essayer de les déconcentrer un peu, quoi. Parce que moi, je veux pas de comédiens qui jouent. Je veux des acteurs qui soient le personnage. Et un comédien va réfléchir comment il va jouer la scène. Et moi, je veux pas ça. Tu ne joues pas la scène. Tu dois être le personnage. Tu es Hortense. Tu vas pas jouer Hortense. Donc Nathalie, elle était Hortense. Donc voilà, il n'y a pas de problème.
Mais comme vous êtes aussi comédien, peut-être que vous savez... Acteur.
Comédien, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Et vous savez aussi mettre en confiance, vous savez peut-être ce que la personne a besoin d'entendre à tel moment, vous ressentez, non ?
Bien sûr, bah évidemment. Bien sûr. Sans que des fois, il faut rien dire, des fois, il faut dire un truc à la maquilleuse parce qu'elle va le répéter, ou des fois, on se dit, mais ça va. Par exemple, il y a des cinéastes, on fait une prise, et puis la chef-op dit, attends. Baisse-moi un petit peu la lampe là-bas. Ouais, vas-y. Ouais, tiens, monte là. Prends ton escabeau. Mets-moi une gélate là-bas sur ça. Là. On fait une deuxième prise. Après, elle dit attends là, mais c'est quoi ce reflet là ? Attends, mets-moi un peu de bombe à maté là-bas. Là. Tiens, ça tu coupes. Non, rallume ce truc. Voilà. Alors, c'est une troisième prise. Quatrième prise. Attends, mais ça c'est un peu chiant quand même. Hein. Mets-moi un truc dehors sur une tour un peu au loin là. Moi, ça, avec moi, ça ne se passe pas comme ça. C'est, vous avez le temps d'éclairer, vous avez éclairé la scène, éventuellement avec des doublures pour... voilà. Maintenant, c'est le temps des acteurs. Donc, je commence, vous ne dérangez plus les acteurs. C'est terminé. Non, mais je... Non. Mais juste là. Non. C'est fini. C'est les acteurs, maintenant. Tu as eu ton temps, ils ont attendu, maintenant, c'est à eux. Et donc, ils le savent, les techniciens, ben, ils ont... c'est comme ça. Je ne peux pas jouer et être dérangé tous les 5 minutes, même pas enchaîner deux prises, quoi. L'émotion, ça se dose, ça se joue. On ne peut pas faire les malins comme ça, avec la technique.
Et vous mentionniez tout à l'heure que Iris Bry, elle captait la lumière, qu'elle était quasiment évanescente. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est qu'il y a vraiment une photographie incroyable. On dirait des tableaux par moments, c'est très pictural. C'est l'émotion que vous vouliez transmettre au spectateur.
Non, mais ça, je savais que c'était un piège. Il ne fallait pas trop tomber là-dedans non plus. Hein, parce que faut savoir qu'en France, à cette période, c'était quand même 80% du travail. En France, c'était les paysans. Pas l'industrie, tous ces trucs qu'il y a maintenant. Donc c'est normal que les peintres se soient intéressés à ça. Pas que pour la lumière, mais aussi au travail. Il y a beaucoup de choses sur le travail. Il y a des choses de Van Gogh où on voit juste un type qui est épuisé par le travail sur sa table comme ça. Il y a plein. Donc je voulais pas tomber dans le piège que chaque plan soit un tableau. Donc moi, c'est mes cadres, mais des fois je faisais exprès. Par exemple, j'ai fait le top de Degas quand elle se lave de dos. Là. Donc, ça, c'est vraiment un tableau de Degas, comme j'avais fait l'absinthe de Degas dans Le Petit Lieutenant. J'ai un talibai dans un verre. C'était quelques-uns comme ça où c'est fait exprès, mais. Ou l'entrée du train en gare de la Ciotat, à un moment j'ai fait exact. J'avais le film de Frère Lumière à côté, je faisais exactement. Mais des fois, je sais, je pouvais faire, mais j'essayais de. Non, c'était pas le musée du Louvre non plus, quoi. Et puis là... C'est vrai que ça a le plaisir là, voilà, d'attendre la bonne lumière. C'est fou, on s'en rend pas compte à quelle vitesse on tourne à terre. On parle depuis quoi de 5, 10 minutes
10 minutes.
20 minutes, la lune était là.
Voilà.
Cachée derrière la montagne, maintenant on est là.
Xavier Beauvois est en train de suivre en fait
la course
de la lune sur le lac Léman, et qui était tout à l'heure quasiment au niveau du Mont Blanc, et maintenant qui est déjà.
C'est des monts.
Voilà.
C'est beau, hein.
C'est magnifique. Et en plus, on se dit que vous allez pouvoir savourer cette vue dans cette nuit que vous allez passer dans cette suite. Vous voyez, j'ai retenu la leçon.
Non, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas les moyens de m'acheter un truc comme ça, de me payer un truc comme ça, parce que j'aimerais bien venir avec ma femme 2-3 jours. Hein, mais pas possible, ça.
Il fallait l'emmener au festival.
Non, mais là, les trucs à faire, les programmes familiaux. Ça, j'ai demandé par curiosité le prix de ce truc, c'est 4 300 € la nuit. C'est déon. Hein. 4 300 €. Il y a des gens qui peuvent se payer des nuits à 4 300 €. Et là, il reste une semaine, quoi. Enfin, c'est démentiel, quoi. C'est démon. C'est incroyable.
Et il y en a, ils n'ont même pas ça pour vivre, pour payer leur facture à la fin du mois. Vous parlez de votre femme.
Mais même pas à la fin du mois, à la fin de. C'est. Des fois, c'est des gens, ils ont 7 8 000 euros par an. Mmh. C'est dément. Enfin, moi, je me plains pas parce que j'ai jamais eu ça de ma vie. C'est un plaisir d'être dans un truc aussi beau, mais jamais je pourrais me payer.
Et donc là, vous mentionnez votre femme. C'est avec elle que vous avez écrit le scénario?
Ouais, elle a écrit le scénario, puis elle joue la monnette à la fin avec ma fille, là, qui perd son mari aussi. Et puis surtout, elle est monteuse, quoi. Donc elle est un peu polyvalente.
Et quand vous écrivez, ça se passe comment? C'est une sorte d'échange constant, d'émulation?
Bah, y a une troisième larronne là-dedans, une troisième gardienne, à Frédéric Moreau. Bah, ouais, on discute, puis elles font des propositions. Je dis non, mais non, ça va être comme ça. Non, puis après, c'est... Moi, je considère pas ça comme un... comme une œuvre d'art, un scénario. Pour moi, c'est un second travail. Après, je le déchire. Je dis non, ça va pas. C'est comme Truffaut. Moi, je suis toujours comme Truffaut. Il dit le tournage, c'est la critique du scénario. Puis après, le montage, c'est la critique du tournage. Quoi. Et au début, Nathalie Baye, elle avait peur. Elle disait, mais tu t'enlèves tous les dialogues, quoi. Tu vas faire vie artiste ou quoi? Tu fais un film muet? Je lui dis, non, mais c'est des taiseux, t'inquiète pas, ça va aller. Quoi. Et des choses merveilleuses, des fois sur place, on s'en est inspiré. Quoi. On déchire, quoi. Ça c'est clair. J'écrivais des dialogues juste avant. Il y a plein de dialogues que j'ai écrits deux secondes avant.
Là, vous mentionnez.
Les acteurs, ça va, ils le lisent une fois, puis c'est bon, ils le savent. Ils sont aussi en phase, ils ont aussi le cerveau qui marche très fort, et du coup, pas besoin d'apprendre, ça sort. Et... On se dit, ouais, effectivement, t'as raison, c'est beaucoup mieux. Ou par exemple, dans le scénario, Laura Smet, Solange, elle avait un bébé, quoi. Et puis, ça a été une catastrophe le premier jour.
Et, dans quel sens?
Il y a trois B dans le cinéma, les bêtes, les bateaux et les bébés, quoi. C'est les trois problèmes, quoi. Les bateaux, c'est une catastrophe. Enfin, surtout en mer, quoi. Ici encore ça va, sur un lac, mais en mer c'est une cata. La mer elle change tout le temps, enfin, c'est une cata. Les bêtes c'est très compliqué et les bébés c'est un enfer. Il a fallu en avoir 12 avec 12 parents et changer tout le temps. Et Sylvie Piala m'a dit, tu devrais virer ce môme, quoi, parce que j'ai vu il y a 21 jours de tournage avec un môme et tout, ça va être une... tu vas te faire chier et tout. Et comme j'ai tendance à écouter Sylvie Piala, quoi,
la productrice,
ouais, qui a quand même été la femme de Piala, qui a fait des films, qui a été régisseuse, qui sait vraiment les choses. Donc je crois qu'il vaut mieux que j'écoute, et j'ai viré le mot, mais je fais une scène où elle dit je peux pas avoir d'enfant, quoi. C'est une belle scène d'ailleurs, mais voilà, c'est des choses qui évoluent, quoi.
Et là, vous mentionniez tout à l'heure Truffaut, vous dites que vous fonctionnez comme lui. Il y a d'autres cinéastes qui vous ont vraiment révélé, amené à votre métier?
Bah, il y en a plein, oui. Il y en a plein, puis des fois, on est inspiré par eux, on s'en rend compte plus tard. Il y a un film qui m'a vraiment beaucoup inspiré sur la forme, c'est quand même le Voyage au bout de l'enfer. La première heure, le mariage, la chasse, les ouvriers, tout ça, j'ai plein de choses, mais ça m'a inspiré beaucoup, quoi. Puis, évidemment, après, il y a des gens comme Piala, il y a des films de Ken Loach, il y a beaucoup, Cassavetes, voilà, moi j'ai pas fait spécialement d'études, quoi, donc j'ai pris chez chacun des choses qui me plaisaient, quoi, de façon consciente ou inconsciente, quoi. Et ça qui est bien dans ce métier, quoi, c'est comme si on avait reçu un héritage avec les films des autres, puis après on a le droit, quand on devient de cinéaste, on peut le dépenser un peu. Des fois, il y a des films où on dit, mais ça, c'est faut faire l'inverse, quoi. C'est pas possible, ça, c'est complètement nul. C'est pas bien. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Moi, quand on me demande des choses, des étudiants, tout ça, je leur dis, mais n'hésitez pas à voir des mauvais films, quoi. C'est très, 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 très formateur de voir des mauvais films. Parce que si vous regardez un bon film, vous n'allez pas voir le montage. Vous n'allez pas le voir, le mouvement de caméra. C'est fait exprès pour que ça se voit pas, quoi. Les costumes, si c'est bien fait, vous les voyez pas, quoi. Tout d'un coup, on voit par exemple Joyeux Noël dans les tranchées. On a l'impression que le costume il sort du pressing et il est mis sur le soldat, quoi. Attention, ne mettez pas une trace de boue, quoi. Comme si, alors que c'est pouilleux, ils sont sales, ils sont couverts de boue, quoi. Là, donc là, on voit le costume. Ou si c'est mal monté, on dit, mais qu'est-ce que c'est ce raccord? Et c'est là on peut voir le montage, parce que c'est mal fait. Donc on voit qu'est-ce que c'est un montage. Si c'est bien fait, on voit pas. Et un mouvement de caméra, tout d'un coup, la caméra, ouf, elle démarre comme ça. Et c'est pas possible. Ou la vulgarité du zoom, par exemple. Il n'y en a pas dans les bons films des zooms vulgaires. Donc il faut bien voir ce que c'est pour pas le. Et moi, par exemple, les travelling, je supporte pas quand on voit le démarrage du travelling. Des fois, je l'ai eu. Et c'est un machino, je ne sais pas comment ils font. C'est un travail spécial. Hein. Parce qu'on tourne depuis 2 minutes, et puis tout d'un coup, c'est lourd quand même, cette machinerie, la dolly et tout. Et tout d'un coup, avec des gestes de danseuse presque, ils poussent, mais d'une façon. On ne sait pas comment ils font comme ça. Et tout d'un coup, le truc, il est là, ça avance, on n'a pas vu le démarrage. Quoi. Ça, c'est magnifique.
Donc, pour ce faire, vous vous entourez d'une.
Il faut voir des mauvais films.
Et pour ce faire, vous êtes entouré d'une équipe qui sait gérer justement à merveille ce genre de.
Ah ben moi, j'essaie d'avoir les meilleurs et puis et d'être fidèle, de reprendre les mêmes tout le temps. Donc, ils savent ce que je veux. Et, par exemple, au mixage, j'y vais très peu. Je ne supporte pas ça. À écouter la même phrase 25 000 fois, ça me rend dingue. Quoi. Ça me rend claustro, les studios. Je déteste ça. Quoi. Et donc, j'ai un mixeur, ça fait 7 films, il a fait tous mes films. Donc, il sait exactement ce que je veux. Quoi. Après, j'arrive, je lui dis, c'est quoi ces poules? Vous m'avez rajouté des poules, là. Et les vaches, mais ça, si vous êtes vraiment des Parisiens, les vaches, ça meugle pas tout le temps. Quand ça meugle, c'est un événement. C'est... Non, virez-moi ça, ça. J'ai l'oreille très... Ça, très vite, quoi. C'est marrant.
Et là, vous mentionnez que votre univers, c'est, bon, c'est un univers agricole, bucolique, les taiseux. En fait, on vous retrouve chez Guillaume Gallienne, où vous faites un passage aussi avec un univers de taiseux, des gens qui n'ont pas les mots pour se défendre. Vous avez aimé votre rôle dans ce film ?
Bah, c'était très marrant à faire, quoi, parce que
c'est un ami.
Mettre en scène un film sans aucune responsabilité. J'ai arrêté le film, le mien le vendredi. On a arrêté l'été, on a attendu 2 mois pour l'hiver, mais là, on est d'arrêter la première session. Le samedi, je fais ses costumes. Le lundi, j'étais devant un faux combo, genre moteur. C'est drôle. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure à Pascal, je disais, c'est coupé. Non, coupé. Et l'assistant derrière la porte, il libérait le passage. Quoi. Après, je disais, mais c'est moi qui ai coupé. C'est pas Guillaume Gallienne. C'est mon personnage dans le film qui coupe le tournage. Mais Guillaume, il a pas coupé. Ah, pardon, désolé. Donc, écoute bien si c'est moi ou Guillaume. Ah, d'accord, mais pardon.
Une mise en abîme.
Ouais, c'est très marrant. Ouais, le faux chef-op, le faux truc. Alors moi, j'ai expliqué à toute l'équipe comment se passait. C'était des gens de théâtre, ils y connaissaient rien, la technique. Alors des fois, la script, ils disent, oh, mais il y a une perche, là. Mais non, c'est pas une perche, elle s'abaisse pour entendre le clac. Ah, d'accord. Ou une machine où je dis, non, mais ça, dans l'autre sens, ça va pas, tout. Donc j'ai expliqué un peu. C'est drôle. Je l'ai pas vu encore, le film.
Ah, faut le voir.
Bah, il paraît que c'est bien, ouais, à mon avis.
Et puis là, vous êtes à Genève pour faire l'ouverture du festival, comme je disais. Vous nous avez fait un magnifique film, La Rançon de la gloire, sur l'histoire de Chaplin. Vous avez une relation particulière avec la Suisse ?
Bah, j'ai déjà fait 2 films de coproduction suisse. Je ne sais pas à combien on a le droit d'avoir une nationalité suisse après. Combien de...
Bon, vous êtes artiste, donc à mon avis, ça sera plus facile.
Et non, j'aime bien. Ben, j'ai adoré tourner ici. J'ai adoré. J'ai pu assouvir ma passion de la contemplation avec le lac. Je suis resté des heures. Je suis un peu à la pêche aussi. J'avais acheté un permis. Et j'avais acheté la lunette pour les oiseaux aussi. Là. J'ai vraiment vu le printemps arriver. J'ai vu.
La pêche sur le lac, vous naviguez ?
Ouais. Non, du bord. Non, c'était très, très beau. Non, puis c'était très étrange ici parce que, par exemple, il y a des trucs. Déjà, j'ai eu le droit d'avoir le manoir de Chaplin, hein, c'était formidable. Après, il y a le palais de justice. Hein, j'ai dit, bon, ça va être compliqué. Oh, lui, pas de problème. Après, je me dis, ils vont jamais me laisser creuser une fosse tombe dans le cimetière, quoi, à 2 pas celle de Chaplin. Alors, je me disais, comment je vais faire? Ils vont me dire, non, c'est pas possible. Comment faire un cimetière? C'est compliqué. Les tombes, on peut faire des fosses tombes. C'est pas un problème. On en a fait plein pour cacher les récentes. Mais les arbres vieux, tout ça, c'est compliqué, quoi. Et bon, ils m'ont dit, oui, pas de problème. Donc, c'était cool. On a vraiment été beaucoup aidés par la région et on a vraiment beaucoup aidés, quoi. C'était un réel plaisir.
Bah, c'est à chaque fois un réel plaisir de voir vos films. Moi, un film évidemment qui m'avait bouleversé, c'était Des Hommes et des Dieux. Parce que j'avais un oncle d'ailleurs qui était moine là-bas.
Ah ouais. Où ça et
à Tibéri.
Ah bon ouais. Ouais,
mais qui est parti, qui a été au bon 15 jours avant, il a été muté à Iqbal. Donc voilà, c'était le destin peut-être.
Ah oui, bah, ça, c'est le destin. Voilà. Ouais.
Et donc, par rapport à ce film, j'avais envie de savoir. Comment vous êtes documenté, parce que oui, il y a eu ce qu'on a lu dans les médias, et puis il y avait tout le reste. Vous avez rencontré des gens qui avaient affaire au père là-bas, au père blanc.
Bah oui, et puis d'ailleurs, le dernier survivant, je le connais. Mais donc, j'avais un moine, moi, qui était plus moine, mais
qui avait quitté les ordres.
Ouais, et qui était avec moi tout le temps. En fait, c'est un ancien trader. Qui est franco-américain, très beau gosse, grand, mais il avait besoin d'une heure de sommeil en plus. Quoi. Donc il avait lu la règle de Saint-Benoît, il avait dit c'est tout à fait possible que je dorme une heure. Et ils ont voté, et puis ils ont voté non. Quoi. Donc ça c'est pas possible. Quoi. C'est, si on n'a pas la bonne dose de sommeil, déjà à deux jours, parce qu'on est en avion ou truc, c'est compliqué. Mm-hmm. Et quand c'est toute la vie, on vit pas, quoi. C'est très compliqué. Moi, je sais que si j'avais pas ma dose d'heure de sommeil, je vais pas bien. Donc, il a arrêté à cause de ça. Mais il savait tout, quoi. Bon, après, la vraie histoire, c'est on saura jamais vraiment, quoi. Mais il y a quand même des choses.
Et quand vous choisissez justement les sujets de vos films, ça peut être une rencontre avec un livre. Une rencontre avec justement un événement, une rencontre avec par exemple une histoire qui semble un peu mythifiée à force d'être racontée. Comment ça se passe, vos choix ?
Bah là, par exemple, il y a pas longtemps, il y a un mois et demi, je crois, il y a un agriculteur qui s'est fait tuer par un gendarme, qui était probablement un agriculteur très sympa, d'après ce qu'on a dit, et puis le gendarme aussi, quoi. Une exaspération des lois de Bruxelles, tout ça, des normes, un enfer que vivent les... Mais bon, c'est le point de départ de mon prochain film. Après, je vais voir les gendarmes, puis j'imagine des choses, et je brode. Ou selon Mathieu, par exemple, c'était une émission où il y avait une femme qui expliquait qu'elle travaillait dans une usine. Une seconde ! Travailler dans une usine de...
C'est des femmes qui sont en cohorte hystérique derrière la porte de la suite de Xavier Beauvois. Mais on va terminer l'interview rapidement.
Une femme qui peignait des cendriers dans une usine, comme ça, de je ne sais pas comment ça s'appelle.
De faïence.
Faïence, ouais. Et puis les assurances ont renégocié les contrats. Ils ont dit maintenant aucun point d'ignition dans l'usine, y compris les clopes aux toilettes, tout ça. Donc jour au lendemain, ils ont interdit de fumer. Et là, elle a accepté ce travail en partie parce qu'elle pouvait fumer ses deux paquets. Donc il y a un moment, elle allait fumer dehors une clope. Et bah, elle était virée, quoi. Et le DRH à la télé disait, bah, quand l'autorité de la direction est en jeu, nous tranchons, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement immonde que j'ai envie d'en faire un film. Cette femme, j'en ai fait un homme. L'homme, j'ai fait deux fils, plein de choses. Et puis après, je fais comme des dominos qui se renversent les uns comme ça. J'écrivais, j'ai dit, bon, il est viré. Son fils le défend. Le syndicat, ça marche pas. Après, il essaie de voir, ça marche pas. Comme ça.
Merci, Xavier Beauvois. Ah, merci.